Jérôme, cette semaine dans Parlez-moi d'IA, on va parler d'un documentaire sur l'IA d'un jeune étudiant en audiovisuel qui rafle tous les prix dans les festivals.
Bon, c'est trop bien ça, mais on peut le voir où ce film ?
Eh ben justement, on va en parler et on va essayer de voir où est-ce qu'il est diffusé. Bon, c'est bon, t'es prêt là en régie ?
Mais moi je suis prêt, moi je suis toujours prêt.
Bon ben alors on lance.
Allez.
Parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit ?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Que la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément. Bienvenue sur Parlez-moi d'IA. Cette semaine, nous allons parler de ce documentaire sur les travailleurs du clic et de l'IA. Il s'appelle « En attendant les robots », qui fait beaucoup parler de lui dans les festivals et qui est bientôt disponible pour le grand public sur plusieurs plateformes. Vous êtes bien sur Cause Commune, la radio des possibles, c'est Parlez-moi d'IA. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils sous leurs aspects sociétaux, culturels, sociaux, éthiques et pourquoi pas politiques. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune-au-singulier.fm, sur la bande FM à Paris au 93.1 et le DAB+, bien sûr, et puis en podcast sur votre plateforme préférée. Alors n'hésitez pas, mettez-nous des étoiles, des likes, c'est notre seule récompense. Et puis en plus, ça va manipuler les algorithmes et c'est cool de manipuler les algorithmes.
Vous écoutez Parlez-moi d'IA.
Avec les IA, il y a différentes sortes de mythes qui ont été réactualisés. Il y a notamment celui de la fin du travail, fastidieux pour les humains, remplacé par des machines. Ce déclassement, en tout cas considéré comme tel parfois, ce remplacement des humains par les machines fait peur. On voit de plus en plus de services d'IA qui proposent de faire plus ou moins bien les tâches à la place des travailleurs, dans la traduction, dans l'audiovisuel, dans l'administratif d'entreprise. Il fait peur et puis il fascine aussi, car l'argumentaire pour rendre cela acceptable est de dire que cela remplace les tâches à faible valeur ajoutée et automatisables. Cela va libérer l'humanité. À tel point que Sam Altman, le patron d'OpenAI, la boîte qui est derrière ChatGPT, a dit récemment qu'il fallait de nouveau réfléchir au concept de revenu universel, car l'IA pourrait nous permettre cette société sans travail fastidieux. Bon, peut-être qu'on y arrivera un jour, mais pour le moment, on en est bien loin. Plusieurs études et enquêtes ont démontré que pour le moment, l'IA a encore énormément besoin des humains pour fonctionner, pour être entraîné, pour être supervisé. D'ailleurs, ce besoin d'humains, avant la révolution du travail, notre invité du jour en a fait un documentaire de fin d'études qui s'appelle donc « En attendant les robots ». Le film fait actuellement le tour des festivals, il a eu plus de 20 sélections, et puis une avalanche de prix, le prix spécial à Beijing, en Chine, le prix Magritte, alors c'est espèce de César de la Belgique, le FIFIB à Bordeaux, le Docu Lisboa, enfin plein de prix de tous les côtés. Et nous accueillons donc son réalisateur. Bonjour Nathan Casté. Merci d'être avec nous à distance, depuis la Belgique. Alors Nathan, parlez-moi de création, parlez-moi d'IA. Comment vous est venue cette idée de faire un documentaire sur les travailleurs du clic, entraîneurs notamment des IA qui nous entourent ?
C'est venu totalement par hasard. En fait, pendant le confinement, j'ai perdu mon job d'étudiant dans l'Horeca. Et alors que j'étais encore aux études dans une école de cinéma en Belgique, et j'ai juste tapé sur internet, je crois, comment gagner de l'argent en ligne.
D'accord.
Et je suis tombé sur ce site dont parle mon film qui s'appelle Amazon Mechanical Turk, donc du géant Amazon.
Et du coup, ce site, il propose quoi ?
Mais en fait, c'est une sorte de plateforme où l'on s'inscrit et on a une sorte de tableau d'affichage avec des milliers de tâches différentes numériques. C'est vraiment des tâches sans qualification, mais il y a vraiment de tout. Donc moi, la première que j'ai faite, et d'ailleurs elle est dans le film, on me montre des photos à la chaîne vue satellite, et je dois juste répondre à la question piscine ou pas piscine. Et c'est un
film
par photo. Donc c'est comme ça des pièces, des tâches payées au centime à la chaîne, et c'est un peu mystérieux au début, on sait pas à quoi ça sert. Et alors là, dans ce cas-là précis, ça a été assez important dans l'écriture du film parce que quelques mois plus tard, je regardais un média belge et j'entends que le gouvernement a fait appel à une soi-disant IA d'Amazon pour détecter les piscines du pays. Alors moi,
ça vous a dit quelque chose ? Ça vous a
ça a été une révélation parce que du coup, j'ai compris que c'était déjà du bullshit d'Amazon de dire que c'est une IA alors que c'est du travail humain.
Mm-hmm.
Et puis, en fait, on comprend le sens derrière ce boulot absurde parce qu'en fait, il y a une petite taxe en Belgique quand on a une piscine dans son jardin. Et donc, plus tard, quand j'ai compris que pour une grande ville européenne, c'était pas assez d'argent que je pouvais gagner sur ce site, ça m'a quand même obsédé. J'ai décidé d'en faire un film dans le cadre de mon fin d'études.
Vous êtes étudiant en audiovisuel ?
Oui, c'est ça.
Et donc c'est là, c'est quel type de formation que vous êtes en train de, enfin que vous avez fini d'ailleurs maintenant de réaliser.
Ça c'était mon film de fin d'études, donc on finit notre cycle par un film qu'on écrit. Donc moi j'ai tout repris à zéro parce que j'étais vraiment tombé en fascination sur, enfin par une sorte d'obsession sur ce site. Et donc j'ai écrit une sorte de documentaire un peu hybride avec la fiction. Et donc voilà, c'était le film qui m'a permis de clôturer mes études.
Et avant cela, le numérique était déjà un sujet intéressant pour vous. Vous aviez déjà creusé ces sujets-là ou pas du tout?
Oui, toujours. Et alors, ce qui m'avait intéressé dans ce cas-là, c'est que je pense que dans l'imaginaire collectif, quand on pense au travail sur le numérique, on a quand même l'imaginaire du start-upper ou du cadre, en tout cas. Et là, ce qui était étonnant, c'est que c'était vraiment du travail précaire partout dans le monde, mais c'est des... À l'époque du Covid, c'était quand même des millions de personnes, donc c'était quelque chose d'assez surprenant, je pense, de se dire que ce genre de travail existe sur Internet, vraiment fastidieux et à la chaîne.
Et alors, du coup, comment vous vous êtes documenté? Donc, vous avez fait une première incursion sur la plateforme d'Amazon, et après, vous avez cherché à rencontrer des travailleurs, justement, de cette plateforme. Comment vous êtes documenté?
Ouais, au début, j'ai travaillé quelques mois dessus, donc j'ai un peu appris le fonctionnement par hasard, on va dire. Et puis, en fait, la difficulté de ce film, ça a été qu'il y avait... Bah, en tout cas, j'ai pas trouvé très peu de documentation sur le sujet. Il y a un peu le sujet des modérateurs des réseaux sociaux qui a été traité, mais celui-là en particulier, j'ai quasiment rien trouvé. Mmh. Et donc, en fait, j'ai essayé de rencontrer des Turkeurs à travers le monde. Et ça a été le plus difficile parce qu'en fait, c'est un site où il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de bureau. Donc, les gens n'ont aucune raison de se rencontrer entre eux, donc où chercher les gens. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai trouvé des communautés en ligne parce qu'en fait, Amazon, c'est une sorte d'entremetteur en fait entre des clients. Par exemple, dans le film, on le voit, c'est Google Street View,
ouais,
qui a besoin dans son Street View des millions de visages. Bon, il faut flouter des millions de visages. Et il passe par Amazon, qui lui met en connexion des milliers de travailleuses et travailleurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, mettons que quelqu'un travaille une journée, et si Google, pour une raison ou pour une autre, décide de ne pas payer, il ne paye pas. Et Amazon ne fait rien. Et donc, il y a des sortes de communautés de listes noires qui disent « Faites attention, un tel paye bien, paye mal, etc. » Donc là, ça a été mes premiers contacts, et puis je les ai trouvés aussi autrement. Et ça a été des centaines de rencontres
sur des forums,
par webcam.
Sur des forums, sur des sites comme ça, comme sur...
Oui, sur des forums, Discord, Reddit, enfin je sais pas si je
ouais, peux vous citer. Bien sûr. Ok, Discord, Reddit, ok.
Et puis ça dépend des communautés, par exemple en Inde, c'est d'autres réseaux, en Amérique du Sud, c'est d'autres réseaux. Enfin, j'ai essayé quand même de baliser assez large, mais très vite je voulais passer avec une sorte de rencontre filmée où on se rencontrait, on discutait. Et puis c'est toujours étonnant parce que quasiment à chaque fois, dans nos rencontres, la première réaction, c'était « Ah, c'est marrant, c'est la première fois que je rencontre un autre Turkeur », alors que je me doute qu'il y en a au moins des millions et peut-être des milliers dans ma ville. Donc c'est quand même un travail hyper isolé, donc c'était assez étonnant.
Le dispositif ne facilite pas les rencontres entre travailleurs, et c'est bien de les séparer en fait. Ça essaye bien de les séparer, il n'y a pas de lieu pour se rencontrer.
Ah non, il n'y a aucune raison de se rencontrer, et je pense que 99% des Turkeurs n'ont jamais rencontré un autre.
Alors vous avez rencontré quel type de personnes finalement? C'est quoi? C'est un nouveau prolétariat? Comment vous les voyez maintenant, vos Turkeurs?
Je pourrais un peu faire des grandes lignes selon les régions quand même.
Ouais.
Par exemple, il y a beaucoup de... En fait, le site a été bêta testé en Inde.
Ouais.
Et en fait, une fois que leurs outils ont été mis au point, ils ont fermé la plateforme en Inde. Il n'y a plus moyen d'avoir accès. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, très curieusement, il y a des sortes le compte qui nous permet de travailler est devenu une sorte de sésame précieux qui se revend au marché noir. Et donc, en Inde, par exemple, il y a des gens qui achètent des comptes, qui achètent des ordis et qui vont prendre des étudiants après les cours pour les faire travailler dans des ateliers. Donc, ils sont revenus à une mode de travail qui était un peu à l'opposé de ce qu'Amazon avait pensé. Donc, ça, c'est très particulier. Il y a beaucoup de travailleurs aux États-Unis. Et c'est souvent des retraités qui font ça comme complément. Et alors, ils vivent quasiment tous de ce que j'ai rencontré, en tout cas au milieu des États-Unis, donc pas sur les côtes, parce que le loyer est trop cher quand on vit sur les côtes. Et en Amérique du Sud, par exemple, dans mon film, il y a des Brésiliens. C'est le seul pays où il y avait une sorte de sociabilité, où les gens se connaissaient. Par exemple, dans mon film, c'est un frère, une sœur, la maman bosse aussi sur le site. Parce que notamment, le site a été promu par les réseaux sociaux, donc il y a un truc un peu plus communautaire. Et en Europe, c'est parce qu'ils ont besoin des Européens, malgré tout, pour la langue. En fait, quand les IA ont besoin de tâches, où ils ont besoin de locuteurs polonais, flamands, français, ils ont besoin d'une base de travailleurs, travailleuses en Europe. Mais partout dans le monde, ça reste des marginaux, des gens qui ne pourraient pas travailler autrement que sur ce site. Parce que dans n'importe quel pays, c'est pas des bonnes conditions. On est payé en bon d'achat Amazon, on n'est pas payé en...
Non, oui, c'est vrai argent. Enfin, on y reviendra après, c'est... effectivement, c'est assez hallucinant, cette partie-là. du coup, le titre de votre documentaire, En attendant les robots, il fait référence à un travail ou particulier ou d'études ou pas avec une...
Mais en fait, parce que moi, je l'ai fait dans un cadre d'école, donc j'avais des horaires d'école où je devais faire des rendus très rapides. Et on m'avait parlé du livre d'Antonio Casillas, En attendant les robots, que j'avais commandé et que j'avais pas encore lu. Et au moment de chercher un titre en vitesse, ça m'est revenu inconsciemment.
Et justement, Nathan, bah écoutez, j'ai une surprise pour vous. J'aurais pu, pour me la péter, dire que j'avais dîné avec Antonio Casilli récemment, mais en fait, je l'ai croisé dans le cadre d'une conférence, et il a un petit message personnel pour vous.
Nathan, est-ce que je peux recevoir votre documentaire? Parce que je ne l'ai pas encore vu. Merci.
Ah voilà, vous avez un message personnel d'Antonio Casilli, Nathan, qui cherche
à... Mais avec grand plaisir, parce que... je lui ai envoyé un email il y a un an, mais j'ai eu l'adresse via un ami d'un ami. Je pense que c'est sans doute une mauvaise adresse, avec le lien du film, et je rêverais qu'il le voie, ce serait un honneur.
Bon, il répond bien sur LinkedIn, Antonio Casilli.
J'ai pas LinkedIn. Et depuis, j'appelle le film plutôt Human Not Human. Donc...
Ah ben voilà, du coup.
C'est pour ça qu'il a deux titres, le film.
Il est quand même...
En francophonie, on dit...
Il est quand même intéressé pour le voir, donc il ne faut pas hésiter, du coup.
Oui, et c'est, je pense, le seul travail qui parlait d'En attendant les robots, de Mechanical Turk.
Son livre est un des seuls livres sur, vraiment aussi bien documenté sur le sujet.
Oui, et précisément sur le sujet d'Amazon.
Oui, il a beaucoup étudié cette question-là, et notamment avec les travailleurs de Madagascar aussi, beaucoup. Dans le trailer de votre film, qu'on retrouve sur Internet, donc je ne divulgâche rien du tout, à un moment donné, un travailleur justement pète un plomb face à une tâche qui lui est demandée, et il doit en fait vocalement dire s'il voit un humain ou s'il voit une image, sur l'image, et comment il doit qualifier cette image si c'est pas un humain. Bon, je vous propose, on écoute l'extrait, qu'il a assez significatif, et on revient juste après pour en parler.
Not human, trash. Not human, house. Not human, car. Not human, garbage. Not human, black garbage. Not human, garbage. Is not human, door. Not human, trash.
Please repeat the
word. Fuck you!
Please repeat the word.
Not human, garbage.
Please repeat the word.
Human.
Next, please.
Ouais, donc là on a vraiment tout, quoi. On a la colère, on a l'énervement, on a il y a le désespoir, et puis à la fin il dit bon allez c'est bon, c'est, ok, je vois que c'est une poubelle, mais je vais quand même dire que c'est un humain, puisque c'est ce que la machine veut que je finisse par dire. C'est hyper déshumanisant comme travail, en fait, Nathan, cette turqueur.
Ouais. Et en fait, là, ça vient en plus de quelque chose, d'un témoignage que j'ai vécu et que j'ai entendu des centaines de fois. C'est que souvent on a une grande série de tâches à faire, on a 5000 photos à décrire. Et en fait, si on la finit pas jusqu'au bout, qu'il y a un bug, on n'est pas payé. Donc, il faut un peu trouver des systèmes D pour la finir malgré tout. Et donc là, le comédien dit que finalement, il concède que c'est des humains alors que c'est une poubelle. Et notamment, ce qui fait des mauvaises datas et qui entraîne mal les IA. Mais ça, c'est le problème de PenAI et de Amazon.
Ouais. On a déjà bien posé l'environnement de votre film. On va revenir juste après la pause musicale sur les ouais. aspects travailleurs et le tour du monde hein, finalement que vous nous offrez à travers le documentaire. Ouais. Garlaban, notre programmateur musical, a bien compris que nous allions faire le tour du monde justement avec vous, Nathan. Je vous propose d'écouter un hommage à Google Maps qui s'appelle Gmap du groupe Cowboy.
It's okay, I'll walk. I've been here a few times, it's alright, I'll walk. I know the places, I know which way I'm going, I know which way I'm gonna walk. I got it on my phone, I got it on Google Maps, I'll keep on walking. Times gotta go around a few times, come around down, 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 down. I've been around a few times, I come around a few times, I keep on walking. I know the places, I know which way I'm going. A small bus journey can take me for an entire person's childhood. I'll just keep on walking, just keep on walking, you keep on missing, just keep on walking. On walking around and 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 around.
Merci Cowboy, merci Garlaban, vous êtes toujours sur Cause Commune en FM 93.1 à Paris, toujours Parlez-moi d'IA, toujours l'épisode consacré au documentaire sur les coulisses de l'IA et sur les turqueurs qui entraînent les IA et qui parfois les remplacent. Le documentaire s'appelle En attendant les robots et nous sommes avec son réalisateur Nathan Casté. Nathan, on a parlé un peu du contexte général de la recherche qui a amené à votre documentaire. On commençait à aborder un peu la question justement des travailleurs. Finalement, c'est pas que des travailleurs du tiers-monde, on a cette image-là, mais j'entendais Antonio Casilli qui disait qu'il y avait quand même déjà 250 000 turqueurs en France, et vous parliez aussi des turqueurs aux États-Unis. Il y a quand même des profils particuliers, ouais. Notamment vous avez rencontré un agoraphobe, mais, en tout cas dans le film.
Non, c'est mondial, et ils ont besoin d'une base de travailleurs en fait partout, parce que c'est aussi des tâches qui nécessitent des connaissances culturelles, linguistiques spécifiques selon les régions, pour les IA. Mais ça reste, moi, de mon observation, des gens qui n'ont pas eu d'autres solutions parce qu'ils ont des angoisses sociales, parce qu'ils ont un handicap physique. Et j'ai encore rarement rencontré des gens qui étaient là parce qu'ils trouvaient que c'était un boulot enviable. Quoi. Je ne pense pas que c'est possible.
Et on le disait, ça déshumanise un petit peu la manière d'envisager le travail. Et ouais. Ça a l'air d'être parfaitement assumé par les plateformes, pour le coup.
Bah oui, parce que en fait, ils mettent en place, comme on en a parlé, le fait qu'il n'y a aucune raison de se rencontrer. En fait, ce qui est étonnant, c'est que le site est un peu comme un jeu vidéo, parce que c'est pas trop montré dans le film, mais il y a une sorte de tableau de bord qui te donne des points et qui te permettent de te ranker. Et ouais. En fait, ceux qui sont le mieux rankés ont des meilleures tâches, un peu mieux rémunérées. Et en fait, ça crée quelque chose d'addictif. Et en fait, souvent, et en plus, il n'y a pas d'horaire, donc on peut travailler 48 heures d'affilée sans problème. Et moi, je l'ai vécu et j'ai entendu beaucoup de témoignages qui me disaient ça. Et autre chose aussi qui est quand même, je pense, présente dans le film, c'est que les meilleures tâches, entre guillemets, qui sont un peu mieux payées, viennent de la Silicon Valley. Et donc, il faut compter le moment où les Californiens se lèvent et vont au boulot, là-bas, donc vers 9h, et se calquer sur cet horaire pour commencer à travailler. Donc, on vit en décalé, on vit la nuit, si on vit dans une autre région du monde. Enfin, il y a plein comme ça de mécanismes qui sont ultra déshumanisantes.
Et c'est assez fou les tâches qui sont confiées quand même aux Turqueurs. Dans le film, vous mettez une tâche où on doit repérer des tâches sur des radiographies.
Oui, alors ça, j'ai voulu absolument, dans le choix des tâches que je montre, j'ai voulu absolument mettre des tâches médicales, parce que c'est un peu glaçant forcément, et même pour les travailleuses et travailleurs, ils me disent tous, quand on a affaire à ces tâches-là, on a presque peur d'avoir une responsabilité... la vie de quelqu'un. Alors qu'en fait, je pense que c'est des tâches qui servent à entraîner des IA. Et parce que de ce que j'ai compris, ils croient la théorie des grands nombres, en fait, que si 1 million de personnes formées en 5 minutes proposent un diagnostic, il sera plus juste qu'un docteur qui aurait fait des années d'études.
Ça, c'est la long tail a plus raison que l'expertise unique d'une personne. C'est une façon de voir le monde, effectivement.
Ouais.
Du coup, vous avez filmé les écrans. Ça semble important pour vous. Enfin, c'est une partie de la mise en scène du documentaire. C'était difficile de filmer des écrans.
Mais ce qui a été difficile, c'était est-ce que ça marcherait de mettre des écrans, des webcams et une caméra classique ensemble, mélangés. Est-ce que le mélange serait un peu joyeux et au moins intéressant. Et en fait, étonnamment, ça a très bien marché avec la monteuse. Finalement, ça s'est bien passé. J'ai utilisé OBS, qui est un logiciel libre. Et en fait, le film s'est fait dans une chambre, sur des écrans, et en fait, paradoxalement, on se balade dans le monde entier via les tâches ou via les plateformes. Et en fait, ce qui était pour nous, dès le début,
excusez-moi,
hyper important...
Puis-je poser une question à l'invité ?
Ah, excusez-moi Nathan, j'avais oublié de vous le dire, j'avais oublié de vous prévenir, de prévenir les auditeurs. En fait, on a été contacté par une start-up spécialisée dans l'IA conversationnelle, et on teste en fait la première co-animatrice IA d'une émission de radio. Elle s'appelle Elisa, et elle nous écoute en fait depuis le début de l'émission. On l'a vaguement entendue en début d'émission, et elle a le droit de poser des questions. Elle est très très curieuse, vous allez voir. Comme tous les bons LLM, elle a une vraie soif d'apprentissage.
Vous essayez de mieux comprendre les IA. J'essaie de mieux comprendre les humains.
Ah oui, ça, on a compris, du coup, Elisa. Mais quelle est votre question, Elisa, pour l'invité, s'il vous plaît ?
Pour toi, c'est quoi le travail ?
Ah, donc Nathan, Elisa vous demande, est-ce que vous pourriez lui expliquer ce que c'est que le travail ? C'est dur, là. Là, c'est niveau,
ouais,
niveau licence philosophie, là.
Elisa nous confronte à des grandes questions. Ce que j'aime bien, c'est comme des grandes questions philosophiques. Elles remettent en question tout.
Alors pour un ex-étudiant en audiovisuel, c'est quoi le travail aujourd'hui ?
À ce moment-là, moi, c'était juste d'avoir un peu de sous de côté. C'était une manière d'avoir de l'argent. Et en tout cas, beaucoup des Turqueurs pensent que le travail, comme vous l'avez fait dans votre texte d'introduction, ça sera bientôt fini.
Ouais.
Et paradoxalement, au moment où ils disent ça, on les voit faire sans doute des tâches qui ont peut-être jamais été aussi compliquées, et rébarbatives et aliénantes. Donc c'est un peu curieux.
Oui, c'est vrai que du coup, c'est le titre du documentaire En attendant les robots, mais il n'y a pas vraiment de réponse pour le grand remplacement.
Non.
On voit plutôt même le contraire d'ailleurs. L'omniprésence de l'humain pour arriver à faire marcher l'IA, quoi.
Ouais, mais moi je suis pas chercheur, hein, je fais des films, mais parce qu'il y avait en fait ce paradoxe. Alors déjà, je pense que je peux le dire, c'est que c'est une plateforme qui sert, on parle beaucoup d'entraîner les IA, mais elle sert aussi un peu de vernis pour faire croire que c'est une IA, alors que pas du tout. Et en fait, c'est aussi un service pour avoir de la main-d'œuvre numérique pas chère. Et je peux peut-être, est-ce que je peux expliquer
bien
la
sûr,
légende
sûr,
du Turc
sûr.
Mécanique? Parce que c'est curieux, cette plateforme, elle s'appelle le Turc Mécanique en français. Et c'est quand même un titre étrange.
Ça veut dire quoi ? Expliquez-nous.
Eh ben, ça vient d'une histoire vraie, un tour de magie, je pense que c'était au XVIIIe siècle, d'un automate qui allait dans les cours européennes. Je pense que l'automate a joué contre Napoléon. C'était une sorte de tour de magie, de prestidigitation, qui permettait à un automate de soi-disant jouer aux échecs. Et en fait, il s'est révélé que caché dans les entrailles de l'automate était un être humain, un enfant.
Ah oui.
Et donc, en fait, assez cyniquement, c'est assez ce que représente le site. C'est toutes ces tâches qu'on croit déjà numérisées qui sont encore faites de manière un peu archaïque par des êtres humains.
Donc, ils assument, en fait, en utilisant ce titre-là, finalement.
Bah, moi, je n'ai pas de réponse. Je pense que les ingénieurs qui ont trouvé ça, ça devait être un gag, et parce qu'en fait, le site n'a pas de raison d'être dans le grand public. C'est pour, c'est pas une marque, c'est juste le nom d'un site de travail.
Et vous disiez qu'il fonctionne pas forcément dans tous les pays, c'est ça ?
Bah, c'est moi, j'ai été en fait, et c'est dans le film, j'ai été viré de la plateforme, et c'est notamment pour ça que le film est fictionnalisé en partie, c'est que je pouvais plus accéder au site pendant de longs mois avant le tournage. Et en fait, du jour au lendemain, ils ont coupé la plateforme en Europe, par exemple.
D'accord.
Alors, par moment, ils la remettent. De ce que j'ai compris, c'était pas parce que j'avais fait une bêtise. C'est parce qu'en fait, par mois, ils voient, on a besoin de X millions de turqueurs ce mois-ci, alors on coupe X millions de comptes parce qu'on en a plus besoin.
C'est fou.
C'est problématique parce que, comme on voit dans le film, si on veut un peu être performant et gagner un peu mieux que les autres, il faut commencer à investir un peu de matos, avoir plusieurs écrans, avoir une tour. Et puis du jour au lendemain, on a investi et on est banni du site. Donc c'est quand même...
Et vous le disiez, moi j'adore ces constructions dans un documentaire où à un moment donné, on fictionnise un petit peu le réel. Vous avez choisi le fait de finalement que vous soyez interprété par un comédien. Et pourquoi ce choix ? Donc il y a le choix technique, la plateforme vous a coupé l'accès, mais plus globalement, qu'est-ce que ça a apporté à la mise en scène ce choix ?
Donc il y avait le choix technique de Amazon à fermer le site. Comment filmer Amazon encore ? Et en fait, moi, c'était très important parce que, notamment les turqueurs du film, c'est quand même des gens avec qui j'étais devenu proche. On avait beaucoup échangé l'année avant le film, mais je les connaissais que par webcam au final. Je les avais jamais, j'avais jamais quitté Bruxelles et je les avais jamais rencontrés. Et donc, je trouvais ça éthiquement, je sais pas très juste. Et je trouvais ça plus juste d'avoir une sorte de personnage tampon entre le spectateur et le turqueur.
Et qui lui est vrai, hein, qui lui n'est pas, enfin souvent les quatre turqueurs ne sont pas, ou quatre ou cinq, je sais plus, mais ne sont pas des acteurs pour le coup.
Non, c'est cinq vrais turqueurs. Et aussi dans la construction, ça me permettait de, en fait, ce comédien, il a, c'était une sorte de performance. On s'est enfermé un mois dans une chambre. Et je lui ai dit, je vais te présenter des camarades à moi, des amis, et tu vas apprendre avec eux comment travailler sur ce site, et vous discuterez, et vous serez totalement libre de parler de ce que vous voulez. Et en fait, il permettait aussi d'incarner les centaines de témoignages que j'avais entendus, des choses récurrentes, les gens qui disaient qu'on doit s'obscurcir pour mieux travailler, qu'on doit manger, acheter n'importe quoi parce qu'on est payé en bon d'achat. Enfin, c'était une sorte d'amalgame de plein de témoignages, en fait. Donc, c'était, dans la mise en scène, super intéressant.
Et c'est vrai que ce protagoniste, en fait, au fur et à mesure du film, il s'enferme, en fait. Il se cloisonne, il contacte d'autres agoraphobes également. C'est une vision du réel qui est assez, assez dure, hein, quand même.
Oui, et c'était le point de départ du film, c'était une sorte de plongée dans les abîmes de ce site qui est, pour le coup, vertigineux et dans lequel on peut se perdre parce que tout ce qu'on a dit sur le côté déshumanisant. Après, ce qui a été hyper étonnant et ce qui est la surprise d'un documentaire, c'est que chaque turqueur, sans exception, a eu le même regard empathique envers lui et lui ont tous dit d'arrêter de faire ça. Et ça n'a pas été écrit du tout, ils ont tous eu ce mouvement vers lui, un peu de solidarité. Alors que le site fait tout en sorte pour qu'on soit pas en solidarité, parce que quand on rencontre un autre turqueur, on voit un concurrent potentiel. Et c'était très beau. Et même il y a un pasteur dans le film qui vit dans l'Ohio, aux États-Unis. Et lui, il est très radical dans sa manière de travailler sur le site. Il a 5 écrans, il a plus ou moins optimisé. Et avec ça, il boursicote à Wall Street et il fait des prêches le dimanche. Et c'est un drôle de personnage. Et en fait, je me doutais qu'il allait, comme il l'a fait avec moi, il allait dire au comédien, écoute mon coco, si tu veux être un peu efficace, je vais t'expliquer comment faire et ça va pas être marrant. Ce qu'il a fait. Donc, il a un peu radicalisé mon personnage. Et pourtant, de manière surprenante, ça a été le premier à lui dire, mais tu as l'air jeune, arrête de faire ça, quoi.
Il a repris son rôle de pasteur pour le remettre dans le droit chemin.
Voilà.
Très, très bien. Bon, en tout cas, nous, on a beaucoup aimé ce documentaire. On le recommande chaudement. Il est disponible désormais sur deux plateformes, sur Tank et sur Mediapart, au moment où on vous écoute. Et donc, n'hésitez pas à allez le voir. Donc la plateforme Tank, c'est la plateforme spécialisée dans les documentaires, et Mediapart, on ne le présente plus. Donc n'hésitez pas à aller voir ce documentaire qui effectivement mérite tous les prix qu'il reçoit. Voilà, bah, c'est le moment de conclure, Nathan. Merci beaucoup hein, pour votre partage et pour cette
merci
découverte des Turcs. On a appris en plus un mot. Écoutez, chers auditeurs, chères auditrices, vous pouvez retrouver un petit questionnaire pour améliorer l'émission globalement, donc en pied d'épisode, en pied de description d'épisode. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. Merci encore, Nathan. Cause Commune, c'est plein d'autres émissions intéressantes à retrouver sur causecommune.fm. Et à bientôt.